Bonjour, c'est Béatrice. Un voyage littéraire à bord d'un train, ça vous dit? C'est la question que nous a posée la compagnie Trenitalia quand elle nous a contactés pour nous demander de réaliser un podcast à bord d'un train à grande vitesse. Marie et moi avons littéralement embarqué à bord de cette idée. Embarquement immédiat en compagnie des voyageurs littéraires. Un podcast qui met à l'honneur les auteurs voyageurs, mais aussi les lecteurs voyageurs. C'était quelque chose comme une déchirure soudaine de la perception. Une vrille de plus en plus serrée au rythme des perceptions, depuis le départ lent jusqu'à cette course inconditionnelle à l'intérieur des choses. Tout un protocole vertigineux d'images qui s'entassent en désordre, s'amoncellent dans les yeux, blessures inguérissables dans la mémoire, esquilles, passages de couleurs à grands traits, objets en fuite, poussière de choses, cette hypertrophie du voir et du sentir. Qui, mieux qu'Alessandro Baricco, nous projette dans la pensée de nos aïeux quand ils découvrent ce nouveau monde que le train apporte avec lui? L'extrait que je viens de vous lire est issu de son roman « Château de la colère ». Nous avons consacré un podcast entier des voyages littéraires à cet étonnant roman. L'histoire des personnages est intimement liée à l'engouement qu'a suscité le progrès des sciences et techniques à l'aube du XXe siècle. L'électricité, le télégraphe, la machine à vapeur, le coup d'envoi est donné. La vitesse va bousculer et inspirer tous les domaines de la pensée. Le train compresse l'espace et pulvérise le temps. Il ouvre la voie à de nouveaux explorateurs. Je veux parler de ceux qui ne vont pas forcément conquérir les espaces, non, mais ceux qui s'en vont découvrir le monde au prisme de la vitesse. Ils sont derrière la vitre du train. Ils sont scientifiques, poètes, peintres, romanciers, philosophes. Bienvenue à bord de notre deuxième épisode de la série des voyageurs littéraires. Un épisode intitulé « L'ivresse de la vitesse ». Passage de couleurs à grands traits, objets en fuite, poussière de choses. À la suite de Victor Hugo que nous lisions dans notre épisode précédent, Alessandro Baricco évoque ce que l'on voit dans le cadre de la fenêtre du train. Le trouble vient que l'œil ne parvient pas à capter ce qui va vite. Il est dépassé, c'est le cas de le dire. Tout est flou, tout est déformé. Recueillir strictement ce que l'œil voit, c'est dans ses grandes lignes le projet de la phénoménologie. À la fois simple et pas si facile. Parce que le mouvement empêche de fixer les choses. Alors, cela peut donner de belles images poétiques. J'aimerais vous lire l'extrait d'un texte emblématique du voyage en train. Il est écrit en 1913 par Blaise Cendrars. Il s'intitule « La prose du Transsibérien et de la petite Jeanne de France ». Il y a là le trajet du train, mais aussi le trajet de l'œil qui capte certains détails et laisse filer le reste. Écoutez, essayez d'imaginer que vous êtes à la fenêtre de ce train. Toutes les gares lézardées, obliques sur la route. Les fils télégraphiques auxquels elles pendent. Les poteaux grimaçants qui gesticulent et les étranglent. Le monde s'étire, s'allonge et se retire comme un accordéon qu'une main sadique tourmente. Dans les déchirures du ciel, les locomotives en folie s'enfuient. Le réel n'est plus tout à fait réel. On sent bien que l'imaginaire prend le pas. Ce poème de Cendrars est un trésor de modernité. dans sa forme littéraire avant tout. Je n'aborde pas ici les jeux, les répétitions, les sonorités. Il est novateur surtout dans sa forme physique. Il ne s'agit pas à proprement parler d'un livre. Il est plié comme un immense accordéon vertical. Comme un long chemin, un chemin de fer, une voie ferrée. Les plis préfigurent un peu le rythme continu des poutres sur les rails. Pas besoin de tourner les pages. Elles se suivent l'une au-dessus de l'autre, comme autant de vues qui formeraient ensemble un seul grand et interminable paysage. Les mots sont écrits en couleurs vives, harmonisés avec la file ininterrompue d'illustrations abstraites qui courent sur le côté du texte, illustrations composées par Sonia Delaunay. C'est une effusion de couleurs qui se succèdent, s'unissent, se fondent les unes dans les autres. Les auteurs baptisent cet étrange objet littéraire le livre simultané. Il préfigure la vision déstructurée d'un œil qui observerait l'intérieur du cadre de la fenêtre sans chercher à comprendre ce qu'il voit. Il correspond, me semble-t-il, à un équivalent pictural de l'approche phénoménologique. Vous trouverez une image de ce livre étonnant sur notre site internet, intitulé « Tout avec presque rien ». Les couleurs semblent épouser le mouvement du train, comme si le train poussait le paysage, l'écartait à grands coups de brassée pour le traverser. Les formes concentriques qui s'enchassent, telles que les dessine Sonia Delaunay autour du poème, ces demi-sphères me font penser à une réflexion de Merleau-Ponty, dans un tout petit ouvrage écrit en 1964, intitulé « L'œil et l'esprit ». Visible et mobile, mon corps est au nombre des choses. Il est l'une d'elles. Il est pris dans le tissu du monde. Mais comme il voit et se meut, il tient les choses en cercle autour de lui. Je vous livre ici une interprétation très personnelle des fameux cercles de couleurs que Sonia et son époux Robert Delaunay n'ont cessé de peindre sur les toiles, les fresques, les tissus ou autres supports. Tous les deux réaliseront des toiles monumentales pour orner le pavillon du chemin de fer lors de l'exposition universelle de 1937. Allez donc voir les photos sur notre site. En somme, le mouvement réactualise en permanence l'image que nous percevons. Pour le peintre, le paysage ne se dessine plus simplement dans l'espace. Le paysage devient un espace-temps. Elle est là, la grande révolution. L'arrivée du train sur la planète bouscule nos repères à plus d'un titre. En ce tout début de siècle, au moment où la représentation picturale ainsi bouleversée glisse vers l'abstraction, un physicien s'interroge. Il habite en Suisse, au pays des coucous, des horloges et des montres, un détail qui n'est pas anodin. Et à chaque fois qu'il prend le train, quelque chose le trouble. L'expérience de la vitesse, et particulièrement la vitesse uniforme, qui a été rendue possible par le train. Cette expérience inédite d'une vitesse uniforme amorce une révolution scientifique. Vous devinez de qui je parle ? Einstein, oui. Albert Einstein. En 1905, il énonce la théorie de la relativité restreinte. Pourquoi pensez-vous que la plupart de ces exemples se situent dans un train ? À ce propos, j'ai une question pour vous, chers voyageurs. Le temps est-il le même dans un train ?
Ben non, parce que on est un peu coupé du monde en fait.
On a l'impression que ça va plus vite.
Oui. Dans le train, le temps s'arrête, en fait on reprend le temps de voyager.
Non, c'est vraiment pas le même temps. C'est pas du tout le même ressenti.
Tu es des papas ou pas ? Tu connais toi la théorie de la relativité d'Albert Einstein ? Non, ça te dit rien ?
Pour moi personnellement, le temps n'est pas le même. mais je pourrais pas dire s'il va vraiment trop vite ou s'il va vraiment tout doucement.
Il tempo nel treno per me è dilatato.
Dilatato. Le temps dilaté. Plus rapide parfois, plus lent d'autres fois. Bref, en train, le temps n'est manifestement pas le même. Et il ne s'agit peut-être pas là d'une simple impression. Vivre la vitesse, tout comme patienter ou attendre un rendez-vous amoureux, cela nous permettrait de sortir du temps conventionnel. Comment imaginer un temps parallèle à celui de la dictature des horloges? Je me souviens d'une exposition au Centre Pompidou, programmée en l'an 2000, qui s'intitulait « Le temps, vite ». Il s'agissait d'explorer la perception, la représentation, la mémoire que l'on a du temps. La première salle était dans la pénombre. Elle nous projetait dans l'état des premiers hommes qui ont observé longtemps le ciel, la nuit, le mouvement des étoiles, le rythme du jour, de la nuit. On trouvait dans les salles une magnifique clepsydre égyptienne, des horloges au césium, et puis intervenaient les artistes avec leur propre représentation ou mesure du temps. Ah, la mesure du temps. Revenons au temps du train et à Albert Einstein. Les gares sont au balbutiement de la ponctualité. Et pour cela, la synchronisation des horloges n'a pas été une mince affaire. Elle se faisait à partir d'une horloge centrale, située dans une capitale la plupart du temps, et toutes les horloges secondaires étaient pilotées par cette horloge centrale. C'était une affaire très complexe. C'est en réfléchissant à cette question qu'Albert Einstein s'est demandé comment la simultanéité pouvait exister entre deux événements à distance. Et voilà, la problématique de la relativité est posée. Bon, d'accord, le temps n'est pas tout à fait le même selon le référentiel que l'on choisit. Mais où donc est passé le laps de temps entre les deux? Où donc est ce temps perdu? Le temps perdu. Un mot qui résonne à nos oreilles littéraires. La recherche du temps perdu. Marcel Proust y a consacré toute sa vie d'écrivain. Proust connaissait-il Einstein? Peut-être pas personnellement, mais il le connaissait, oui. Du moins, nous savons que Proust était particulièrement intéressé par toutes les publications qui concernaient la relativité. Et Marcel Proust l'a pris et repris le train. Paris, la Normandie, gare Saint-Lazare, la petite gare de Balbec. Il l'a éprouvé, ce temps qui s'étire ou se contracte sur un même trajet. La réalité géographique n'existe pas, dit-il. Et cette phrase suffit à nous laisser comprendre que son référentiel à lui, c'est le train. Son amie Camille Vétard fait immédiatement le lien entre la recherche de Marcel Proust et celle d'Albert Einstein. Écoutez ce que Camille Vétard écrit en 1923. L'un et l'autre ont le sens, l'intuition, la compréhension des grandes lois naturelles. Le monde proustien, où le temps a tant d'importance, est un monde à quatre dimensions, tout comme le monde de la relativité restreinte. Proust, comme Einstein, dans sa description du monde, a pris en compte des décimales, jusqu'ici ignorées. Il n'y a pas seulement la géographie qui se métamorphose, c'est bel et bien le temps qui n'est plus le même. La vitesse ouvre les pensées en provoquant une lecture du monde à quatre dimensions. C'est bien cela. Pendant que Proust et Einstein sculptent cette nouvelle représentation du temps, gagné ou perdu, qui sait? Pendant ces mêmes années, 1910-1920, un courant artistique traduit de façon plastique la grande métamorphose opérée par la vitesse. C'est le futurisme. Comme pour Einstein, c'est l'expérience de la vitesse qui provoque chez ces artistes la conscience aiguë que l'on ne peut plus envisager la forme artistique sans y intégrer le mouvement. La conscience que tout est en mouvement va réinventer la perception des choses. Le futuriste Umberto Boccioni sculpte son homme en mouvement en essayant de rendre compte non pas d'un instant T, mais d'un espace-temps. Le mouvement est une chose, mais la vitesse, vous imaginez ? Tout est remis en question. En plus d'être une sensation absolument enivrante, elle engage des pensées inouïes. La vitesse est une donnée bouleversante pour la sensibilité et la pensée d'un artiste. Les futuristes voient dans l'apparition du train, de la voiture et de toutes les machines des promesses vertigineuses de vie ardente. J'aimerais vous lire un petit texte écrit par un futuriste du même groupe, Filippo Tommaso Marinetti, en 1916, dans un article intitulé « La nouvelle religion, morale de la vitesse ». La vitesse du train contraint le paysage traversé à se diviser en deux paysages qui tournent en sens inverse de sa direction. Chaque train emporte avec soi la part nostalgique de l'âme pour celui qui voit passer les choses au loin. Arbres, bois, collines, montagnes observent avec épouvante cet assaut des choses lancé en sens inverse du train, puis décident de les suivre, mais avec mélancolie, plus lentement. Les perspectives s'inversent. Dans le regard du voyageur, les arbres, bois, collines, montagnes, dont parle Marinetti, sont personnifiés, comme stupéfaits par le passage éclair du projectile qui tranche le monde et pousse les choses avec violence dans le sens inverse de son passage. Tandis que le lointain s'en va, lui aussi, mais pris dans le mouvement plus lentement. Un tableau semble illustrer ce texte. Une peinture extraite du « Triptyque de la vitesse » signé par le futuriste Gherardo Dottori en 1926. Vous pouvez en voir une reproduction sur notre site. Un train arrondit et déforme le paysage, un peu comme dans les tableaux de Sonia Delaunay. Mais ici, le train rouge fend la campagne comme une flèche. Tiens, on dirait le train de Trenitalia. Il s'appelle Freccia Rossa, n'est-ce pas? Cela signifie flèche rouge. Remarquons que sur la toile, la pointe du train semble avoir déjà tracé son itinéraire, comme si la flèche allait si vite que rien ne peut l'arrêter. Le futur semble prédéfini. J'aimerais terminer en évoquant un philosophe contemporain, Paul Virilio. Grand théoricien de la vitesse. Il voit dans la vitesse, et surtout dans l'accélération sans fin à laquelle elle invite, les prémices d'une révolution dans laquelle nous sommes plus que jamais intriqués. En 2001, Paul Virilio constate dans un article « Désormais, la vitesse est vraiment devenue notre milieu. Nous n'habitons plus la géographie, mais le temps mondial. » Eh oui, la vitesse efface la distance, c'est la fin de la géographie au sens classique du terme. Nous vivons tous dans l'instant, nous sommes partout à la fois. Ce n'est pas sans épouvante que Paul Virilio envisage cette course effrénée qui nous fait oublier que pour vivre, pour observer, pour réfléchir, il faut du temps. Retrouvez les références, les développements, les liens et toute une documentation autour des thèmes abordés sur notre site. Tout avec presque rien. Notre prochain épisode consacré au train s'intitule « La machine à rêve ». Pour ne pas rater son arrivée en ligne, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Les Voyages Littéraires. À bientôt.